Salutations tout le monde, j'espère que ça vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Donc c'est le retour de notre quatrième édition du Balado Liquide qui revient après une pause d'un petit peu plus de un mois et demi. Donc je vous laisse sans plus tarder avec l'enregistrement qu'on a fait avec Robert et moi. Et aussi j'en profite pour vous dire, si jamais il y a des personnes qui n'auraient pas vu passer au travers l'été l'arrivage des vins de Fred Camille, sachez qu'il reste 3-4 cartons là, de disponibles encore en ligne, s'il y en a qui veulent en profiter pour en faire l'achat et le récupérer en même temps que votre arrivage qui va être disponible ce vendredi. Donc, bonne écoute. Merci. Salut Robert.
Salut Louis-Jacques.
Ça va bien?
En pleine forme, moi.
Ben, moi aussi en pleine forme. Après retour, la maladie aura eu raison de moi durant l'été. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On en est à notre quatrième arrivage avec une pause de un petit peu plus d'un mois. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à apprécier les vins et que certains ont commencé parce que lorsqu'on a fait la remise de la troisième caisse, certaines personnes n'avaient toujours pas commencé à déguster les vins. Donc, j'espère que vous avez profité des vacances estivales pour commencer à taper dans les vins qu'on vous a servis. Donc, super belle sélection aujourd'hui. On commence en Bourgogne. C'est de plus en plus difficile de s'approvisionner en Bourgogne. La région est petite, les productions sont limitées et influencées beaucoup par l'effet millésime. Et surtout près de Chablis, là, la Bourgogne peut être impactée par des gels ou de la grêle. Donc, dans les 10 dernières années, il y a quelques millésimes où on en a un peu plus arraché. Donc, lorsque l'occasion se présente, eh bien, on en va en mettre dans la sélection du club de vin parce que, comme je vous dis, c'est de plus en plus rare. Puis, je pense que les gens ont bien apprécié le Bourgogne et le Gothé de domaine Morin là, qu'on a eu dans les premiers arrivages. J'ai eu des très bons commentaires et suivis à ce sujet-là. On reste encore une fois avec ce domaine-là dans les terroirs limitrophes à la région de Chablis. Le producteur, c'est Vincent Vengier. Donc, je vais le reprononcer juste une fois dans l'atelier. Donc, Wengier. Je me suis informé hier, elle se prononce Vengier. C'est un producteur qui est basé à Chablis. C'est un domaine d'une bonne ampleur. 25 hectares dans le Chablisien, c'est quand même pas mal, considérant que la région est assez petite. Ils sont en train de finir leur conversion en lutte organique. Donc, si vous voyez sur la bouteille, vous allez souvent voir de plus en plus en France HVE, donc domaine à haute valeur environnementale. C'est qu'est-ce que ça mange en hiver, ce label-là? C'est un peu le label transitoire entre je commence à être de plus en plus vert, de plus en plus propre, vers une démarche certifiée en agriculture biologique. Tant que je n'ai pas cette certification-là, certains producteurs vont mettre ce label-là. Donc, Vincent représente la troisième génération de vignerons, mais pour nous, c'est tout nouveau de voir arriver ça, pas parce que ça fait pas longtemps qu'ils font du vin, au contraire. C'est plutôt qu'à l'époque, les productions étaient vendues en cave coopérative. Leur premier millésime qu'ils vinifient par eux-mêmes, c'est seulement 2018. Avant, ça s'en allait en cave coopérative. Donc, on est qu'à son. C'est son quatrième. Non, deuxième millésime, pardonnez-moi. Donc, en ce qui concerne le produit, je parle de Chablis depuis tout tantôt, mais on est sur l'appellation Bourgogne. Donc, même cépage qu'on trouve à Chablis. Par contre, on est sur les pourtours limitrophes de Chablis, donc on ne peut pas avoir l'appellation d'origine contrôlée. Il est basé sur la commune de Préhy, donc qui est un petit village sur l'aire d'appellation Chablis, sur la rive sud-est du Serein, donc le Serein qui passe à travers l'appellation, qui est sur la rive nord ou rive droite,
droite, ouais.
Nord-est, on va retrouver les grands crus de Chablis, et sur la rive sud, rive gauche, donc sud-ouest, on va retrouver les premiers crus. Donc, Préhy est du côté gauche, donc sur la rive sud, et il est à un jet de pierre du premier cru, les Beauregard. Donc, en ce qui concerne le producteur, 25 hectares de vignes, seulement sur Petit Chablis et Chablis, il ne fait pas de premier cru ni de grand cru, et un peu de Bourgogne et de Bourgogne-Ligotée. On est sur un vin qui est issu à 100% d'élevage en cuve d'inox, bon élevage sur lit qui est fait pendant un an et une mise en bouteille. Donc, vraiment un très beau chardonnay avec.
C'est quand même. Ça me semble un peu riche, quand même, comme type de Chablis. En fait, c'est pour ça qu'on parle pas d'un Chablis, on parle vraiment d'un chardonnay de Bourgogne, un peu plus généreux que ce qu'on
Oui,
retrouverait.
exact. Et on a vraiment des arômes de maïs qui vont ressortir un peu, le maïs frais. Donc, souvent, le maïs, on va le retrouver dans l'élevage en fût de chêne avec un côté beurré, noiseté, mais lorsqu'il est frais. On peut retrouver ces arômes-là dans le chardonnay. Là, c'est Robert qui a vraiment le nez de cet atelier-là. Comme je dis, je sors d'une COVID qui n'a pas eu raison de mon bulbe olfactif, mais au niveau de mes précurseurs d'arômes, c'est encore pas tout à fait optimal.
C'est très beau, ça, avec une volaille rôtie. Là, je pense que ça serait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est un chardonnay à mi-chemin entre ce que certains aimeraient avoir comme chardonnay du Nouveau Monde, un peu plus rond-levé.
Effectivement.
Et qui a un pied quand même dans la Bourgogne un peu plus classique, avec une belle minéralité, une tension quand même, mais une bouche très, très voluptueuse quand même.
Et on va souvent faire référence avec Chablis et huître, mais là, dans ce cas-ci, on n'est vraiment pas sur un vin à huître du tout. Là. La preuve que c'est pas parce qu'on est à côté de ce terroir-là que nécessairement on va mettre de l'avant là, les coquillages frais comme ça.
Est-ce qu'il y a un effet millésime 2020?
2020, c'est une année comme classique. Ouais. C'est sûr que là, on sort du 2018 qui était très chaleureux, généreux. Et je retrouve un côté généreux aussi. Là, donc, vite comme ça, 20, je peux pas dire si c'est... c'est sûr que c'est moins chaud que 2018, mais c'est pas un millésime qui est frais non plus. Là, donc,
OK. On passe au deuxième?
Oui, on reste en Europe. On s'en va...
À l'autre bout du continent, juste à la limite ouest de l'Espagne, en Galicie, avec ce troisième ou quatrième arrivage de Benito Santos au Caviste. C'est un vin qu'on avait découvert, que j'avais découvert par hasard à Vinexpo il y a quelques années. Et l'attrait, en fait, de ces vins-là, en fait, c'est que cette partie de la Galicie n'est pas nécessairement une partie très, très connue, la région de Riège-Baxas. Et on a eu la chance de rencontrer des successeurs d'un monsieur, Benito Santos, qui est très, très connu dans l'appellation, qui a servi à créer l'appellation des années 80, mais qui sont des gens qui faisaient du vin depuis 1930. Ils sont très, très bien établis dans cette appellation-là, dans le Val d'Ossalnès, en fait, la zone la plus qualitative, et ils s'amusent aussi, la maison s'amuse aussi à travailler dans d'autres appellations, dont celle de Monterrey. Monterrey, qui est une appellation limitrophe au Portugal, en fait, minuscule appellation. C'est un endroit, moi, j'ai jamais eu la chance de visiter encore, mais il paraît que c'est tout à fait spectaculaire. En fait, ça pourrait être un endroit où on tourne le Seigneur des Anneaux. C'est de la pierre, c'est de la roche, c'est très, très... rustique. C'est très galicien, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des référents avec la Galicie, mais on voit le pêcheur là, galicien qui part avec sa barque et qui a un tour de bras là, comme d'autres ont des cuisses. Là. Donc, c'est un terroir qui est très, très difficile à travailler et qui est déterminé par, justement, des grandes variations de température de jour et de nuit. Le jour, il fait excessivement chaud. Le soir, la nuit, très, très froid. Seulement 650 hectares de plantés dans cette appellation-là, fait qu'on parle de vraiment de la production minimale. Il y a 25 bodegas en tant que tel. Il y a plusieurs producteurs, mais il y a juste 25 bodegas. Le cépage principal, c'est le Godello dans le blanc et Trechalura aussi. Et dans le rouge, c'est le Mencia et un petit peu de Tempranillo. Mais nous, on importe le Godello et le Mencia de cette maison-là. Et on a, dans ces vignes de 25 ans-là, on a... ça vient sur un territoire d'ardoise et de granit. On est vraiment, l'herbe fraîche, c'est la première chose qui sort, c'est fou, vraiment. Fou. Avec des petites touches de miel mentholé, fleurs blanches.
Petit côté salin aussi.
Un petit côté salin, mais c'est vraiment le nez, c'est fabuleux. Quand je révisais hier, là, je me disais, waouh, c'est ça.
Le Godello, c'est vraiment un cépage under the radar, si je peux me permettre mon anglais. Qui donne des super résultats et un peu caméléon aussi, comme le chardonnay peut l'être. Donc, on peut vinifier, on peut intégrer du bois au besoin, ça va répondre très, très bien à ça, mais qui a sa propre personnalité. Là. Je le catégorise souvent, si les gens aiment le chardonnay, on va les amener vers le Godello sur une carte des vins, mais avec sa propre identité, mais on sent au niveau des trames aromatiques et des rondeurs qu'on embouche, on est proche de là. Et ce millésime-ci est spectaculairement réussi. Là,
ouais, donc, c'est vraiment bon. C'est le fun parce que c'est le troisième, je crois, qu'on importe et on voit vraiment l'évolution au niveau de la maîtrise. C'est sûr que c'est des vignes, c'est les mêmes vignes qui ont 25 ans, qui deviennent un peu plus qualitatives, mais la vinif est mieux faite. On est vraiment sur une bouche pomme-poire japonaise, de la mangue brésilienne. C'est riche, mais c'est contrôlé, c'est enveloppé, mais c'est pas lourd, c'est vraiment très, très agréable. Hier soir, j'écrivais un petit texte pour ça, et puis là, je me disais, je me voyais, il y a plusieurs années de cela, découper de la sole, la sole de douve meunière, et je me disais, waouh, ça serait vraiment, ça arriverait à passer à travers le côté enfariné, légèrement poêlé, là, qui était très old school comme poisson, si jamais vous avez la chance, là, avec un petit peu de citron et de capre. D'ailleurs, meunière, en recherchant la recette hier, je me suis rendu compte que c'était le plat de la femme du meunier qui faisait ça avec de la farine, d'où le terme meunière. Donc, un bel accord. C'est sûr que ce n'est pas évident de faire la seule meunière demain soir, là, mais
vous pouvez prendre un poisson en chair blanche et l'apprêter à la mode meunière. Si vous ne trouvez pas de sol de douve,
c'est correct. Ou sinon, brunch dimanche matin avec une hollandaise au citron, là, ça va bien traverser l'hollandaise. C'est vraiment, ce qu'on va aller chercher, c'est le clash entre le gras et ce vin-là.
Effectivement, puis ce que je peux peut-être ajouter aussi sur le fait que, tu sais, on parlait que ce millésime-là se goûte spectaculairement bien par rapport à l'autre arrivage. Pour nous, c'est pas des notes négatives. Moi, de goûter à chaque année le même produit sur un millésime différent et qui se goûte différemment, ça me sécurise parce que ça veut dire qu'il y a une main d'homme qui est derrière ça, il y a un effet millésime, donc le vigneron tente pas de trafiquer le vin dans le but qu'il soit aseptisé et qu'il goûte toujours pareil, là. Donc ça, c'est super intéressant et ça amène donc complexité. Cette année, c'est un... Le dernier arrivage était super bon. Là, c'est comme « oh, wow! » Exactement, c'est ça.
Troisième vin.
Oh, troisième vin. Alors, on revient sur domaine Thorn and Dollars par John Secumbane. On vous avait titillé les oreilles et les papilles cet été avec la cuvée Copper Pot de Pinot Noir. Petit fait intéressant, j'ai eu quelques réponses là, aux gens qui ont bien apprécié le vin. Et par contre, certaines personnes ont dit « Oh, je l'ai commencé un soir, j'ai poursuivi le lendemain et le lendemain, il se goûtait encore mieux. » C'est sûr que John a une vinification assez en mode réduction. Donc, réduction, c'est quoi? C'est qu'il n'intègre pas trop d'oxygène, laisse la barrique pas trop intégrée d'oxygène et ça permet quoi? Mais ça reste que le vin se ferme et va se projeter dans le temps. Et ça fait en sorte que ben, c'est des vins qui méritent d'être carafés, autant les blancs que les rouges. Les rouges, on va plus souvent penser à les carafés, mais même ce vin blanc-là que vous avez devant vous, n'hésitez pas à le carafer. Donc, le vin emblématique de John Secumbane, donc sa cuvée Rocking Horse. Pour la petite histoire, je pense qu'on avait frôlé légèrement le tout lors du dernier balado. Ni plus ni moins, après avoir s'être intéressé à l'Afrique du Sud en long et en large en 2016, on commençait à vouloir importer. On avait soif de faire venir des produits sans nécessairement les avoir goûtés. J'ai lu un peu sur ce producteur-là et ses produits. On l'a rejoint par courriel. Il nous a dit « C'est super intéressant les garçons, mais j'ai plus de vin à vendre. Il me reste 6 caisses de 12 du vin qu'on vous sert aujourd'hui. » On a dit « Bon, on va les commander en importation privée. » Et on a goûté ce qu'on pensait que c'était pour goûter, ça se goûtait ça. Et nous voici aujourd'hui à notre troisième arrivage avec lui. Donc, une omelette sud-africaine, pour ne pas dire une omelette espagnole. Donc, un assemblage. Donc, comme l'a vu la coutume en Afrique, on procède à un assemblage qui, dans le cas échéant, porte la mention Cape White Blend. Pourquoi? De par son apport en chenin blanc. Donc, dans le Nouveau Monde, on a coutume de faire des vins plus mono-variétaux, donc 100% d'un cépage. L'Afrique du Sud, eux, dans leur coutume, leurs mœurs, ont toujours assemblé les vins. Et comme le chenin blanc, c'est le cépage emblématique d'Afrique du Sud, lorsqu'on met un peu de chenin blanc dans notre assemblage, on peut parler de Cape White Blend, donc une référence au Cap de la Bonne Espérance. Alors, je vais prendre un grand respect pour les cépages. Dans un ordre précis du plus généreux au moins généreux, on a 36% de roussanne, 25% de sémillon blanc, 22% de chenin blanc, 11% de chardonnay et 6% de clairette blanche. Et ces mélanges-là vont varier de millésime en millésime. En ce qui concerne, ici, on est sur le millésime 2019 et encore une fois, on est sur quelque chose de spectaculaire. Un grand vin de gastronomie, un grand vin de repas, avec tous des cépages qui ont en commun quoi? Avec des cépages qui ont souvent donné des vins de la patine, un côté huileux, un côté cire d'abeille, et bien, en bouche, bien, c'est harmonieux. Je ne sais pas ce que tu en penses.
En fait, j'allais rajouter que pire que juste l'assemblage de 5 cépages différents, John travaille dans différentes régions. Donc, on parle de vins qui viennent de Swartland, Stellenbosch, Franschhoek, puis ainsi de suite, qui ont toutes des âges vénérables. Les plus jeunes, je regarde, c'est
16 ans.
C'est la roussanne à 12 ans.
T'as raison.
Mais
et le chenin à 40 ans.
Le chenin à 40 ans. Donc, on ne parle pas de petites vignes là, qui sont comme feluettes et qui produisent de l'acidité. On parle de vignes matures dans des sols probablement excessivement pauvres de granit et de schiste décomposé. Et en bouche, c'est spectaculaire. Puis, blague à part, on a déjà eu John Secombe en dégustation chez nous. C'est une personne qui a une maîtrise des blancs qui est incroyable. Assez incroyable pour vrai. À part le copper pot qu'il faisait pour sa famille, il fait pas de rouge.
Ben, il fait un autre rouge. On dit qu'il y a une maîtrise des blancs, mais là, il commence à s'intéresser au rouge, puis on se rend compte qu'il y a une maîtrise tout court, en réalité. Là. Mais c'est sûr que pour deux cuvées de vin rouge, il va faire six cuvées de vin blanc. Donc, effectivement, c'est un spécialiste du vin blanc en Afrique du Sud. Là.
Ça, c'est texturé, là, un coup de carafe, comme tu disais tantôt. Là. Pas trop froid, là, surtout. Surtout laisser-les s'exprimer avec la température un petit peu plus élevée que des blancs réguliers. Là.
Exact, exact. Et là, on a titillé vos papilles avec le Copper Pot. Là, vous avez le Rocking Horse. Les autres cuvées, malheureusement, ne feront pas partie d'un arrivage Société des liquides. Peut-être l'année prochaine, le rouge, qui sait, son Wanderer's Arc, qui est un assemblage Grenache, Syrah, Mourvèdre, qui est spectaculaire aussi. Mais si vous avez l'intérêt ou de la curiosité pour d'autres de ces cuvées, faites juste nous envoyer un petit courriel, on vous laissera savoir. Mais on n'a pas des gros volumes non plus de ces vins-là, mais ça nous faisait, fallait mettre ce vin-là dans un des arrivages de la Société des liquides. On s'en va maintenant, on retourne en Europe.
Ouais, on s'en va.
On s'en va à Cahors.
Cahors, dans le Lot. On s'en va déguster. En fait, Louis-Jacques nous a fait deux choix de rareté, en fait. Puis la ligne directrice, c'est le Malbec. Les deux prochains vins auront du Malbec en quantité
importante,
mais quand même en deuxième assemblage. Le premier vin, c'est un vin donc du Malbec, en fait, 15, un petit peu en dehors de l'appellation de Cahors. Benoît Aymard qui exploite un vignoble familial, troisième génération, 15 hectares, c'est minuscule. C'est un vigneron jeune, déterminé, qui travaille en bio, très très peu d'intervention. Et contrairement à ce que tous vos sens vous disent quand je dis Cahors, dans ce cas-ci, il ne faut pas penser à gros vins noirs, lourds, avec des tanins qui vont déchausser vos gencives. Il faut plutôt penser à un fruit croquant. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce vin-là, dans cet exercice-là, c'est deux choses. Le Ségalin, qui est un cépage qui, ma foi, m'était probablement aussi inconnu que vous avant ce début de balado. Qu'il est planté à 56 hectares dans toute la France, dont quelques hectares dans le Lot. En fait, la majorité dans le Lot. Le Lot, c'est la région administrative du Cahors. Et donc, Vincent, Benoît, pardon. Il y a quelques années, a acheté une terre avec des vieilles vignes de Malbec, pardon, et il l'achetait principalement pour ses Malbec de 50 ans. Quand il a découvert quelques rangs de Ségalin, puis il s'est dit « qu'est-ce que je vais faire avec du Ségalin? » C'est connu que le Ségalin, ça donne des vins excessivement tanniques, noirs, très, très denses, et c'est pas son style de vinif. Même ses Malbec sont vinifiés sur le fruit croquant. Donc, ce qu'il a fait, il a vinifié le Ségalin comme un rose, un vin rosé. Donc, vous avez un rouge qui est vinifié comme un rosé ou un rosé comme un vin rouge, c'est selon. Et l'expression « queue de pressoir », en fait, c'est qu'il fait d'autres vins, dont un rosé qui s'appelle c'est le nom de ses enfants, là, ça m'échappe, là, mais donc ce rosé-là, la queue de pressoir de cette rosée-là. Donc, c'est la partie la plus dense d'un rosé qui a fait... la partie la plus limpide d'un rosé qui a fait une saignée, c'est ça?
Oui.
On va l'assembler à ce rouge-là qui serait très tannique normalement. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est alléger ce rouge-là par un assemblage avec une queue de cuvée de rosé. Donc, on a ce vin-là qui...
Il est un super bel exercice de style. Puis ça, c'est le genre de choses que quand un vigneron commence à avoir de l'expérience, bien, ce produit-là, par exemple, n'a jamais fait de vin. Mais là, il se dit, moi, je peux faire quelque chose avec ça. Je vais être créatif. Je ne peux pas faire un rosé, c'est trop foncé. Je vais l'assembler, puis ça va donner quelque chose de super intéressant. Rapport qualité-prix imbattable. 12 points, je ne sais pas combien de pourcents d'alcool.
12,5.
Super gros vin de soif, ouais. Agréable à boire.
Mais en bouche, tu as des calcaires, tu as le terroir de Cahors, tu as comme cette essence qui fait que le Cahors, ça peut être un peu contraignant en bouche, ça se délimite rapidement. Quand je goûtais ça, on l'a cerise au vert en ce moment, je pensais justement un effiloché de porc, un braisin effiloché. Ouais. Le gras de la viande irait enrobé, balisé ce vin-là, qui est vraiment intéressant. Le Ségalé, pour la petite histoire, c'est un croisement qui était fait dans les années 60-50 entre le Jurançon noir et le Portugais bleu. C'est un vin, c'est un cépage qui a été créé génétiquement et qui a été un peu utilisé, mais rapidement délaissé parce qu'on se rendait compte qu'on avait le cote en Cahors, puis il n'y avait pas de raison d'avoir deux cépages aussi intenses au niveau des tanins, de l'extraction. Donc, on a comme laissé un peu aller cette piste-là. Comme je dis, si vous croisez du Ségalin quelque part,
appelez-nous,
parce que nous-mêmes, on était assez surpris. Mais c'est très, très, très intéressant de la manière de s'assembler. Donc, 80% de Ségalin, je crois, et 20%, 70 et 30 de Malbec. Puis le Malbec, on le sait, c'est un cépage qui a voyagé maintenant jusqu'à l'Argentine, mais je reviendrai sur le Malbec un peu plus tard dans le prochain vin, en fait.
Dans le prochain vin.
Donc, moi, je le prendrais avec une viande braisée, un effiloché.
Ouais. On a effleuré le sujet lors du dernier balado sur des vins de malbouffe, là. Ça, c'est un très beau vin de malbouffe aussi, là. Donc, nourriture un peu graisseuse, là. Des gens qui ne sont pas amateurs de bière, là, puis qui préfèrent boire du vin. C'est un vin parfait pour ça. Mais quand même, il y a quand même une belle élégance aussi. Ça va être bientôt, pas si bientôt que ça, mais il y a l'Action de grâce qui s'en vient. Et c'est un beau vin de volaille aussi, là, donc dindon, viande blanche. Là, quelqu'un qui veut pas,
en fait.
Ouais, c'est ça, exact. Mais quelqu'un qui veut pas nécessairement boire du blanc avec de la volaille, ça peut être un beau vin rouge à volaille également. Fait que là, on reste dans le Malbec sur Bordeaux.
Ouais, on s'en va avec du 80% Merlot, 20% Malbec. Pour les gens qui l'ignoraient, le Bordelais était précurseur du Malbec. En fait, a même créé le nom du Malbec avec M. Malbec E.C.K. qui a donné son nom au cépage, qui lui travaillait à Bordeaux, qui a planté le Malbec à Bordeaux. Le Malbec a plusieurs noms. Hein. Vous avez le Côte, le Malbec, le Pressac. Il y a vraiment beaucoup de noms qui accompagnent le Malbec. À Bordeaux, il est encore permis. Il a longtemps été un gros vin vin assez planté, mais avec le phylloxéra, les greffes ne prenaient pas nécessairement très, très bien. Donc, on a comme délaissé le Malbec pour incorporer un peu plus de Merlot. Donc, Côte-de-Bourg. Côte-de-Bourg, c'est quoi? C'est une des 5 ou 6 appellations qui ont Côte-de-Bourg, qui devait être la fer de lance de l'appellation Côte-de-Bordeaux avec Côte-de-Franc, Côte-de-Bordeaux, Côte-de-Blaye, Côte-de-Bordeaux, Côte-de-Question, Côte-de-Bordeaux, Question, Côte-de-Bordeaux, et ainsi de suite. Et le bourgeois, en fait, le bourg, qui est juste au sud du Blayet, juste devant Margaux. Si vous êtes à Margaux, vous regardez de l'autre côté, c'est le bourg, les Côtes-de-Bourg. Bien, choisi de faire cheval cavalier seul, pour garder un peu plus d'indépendance dans sa commercialisation. Donc, vous avez une appellation qui est très petite, je pense que c'est même pas 3000, c'est 8000, non, excusez-moi, je cherche la... C'est 4000 hectares, excusez-moi, 4000 hectares, 550 producteurs, c'est vraiment petit, qui se spécialise dans le Merlot, évidemment, mais qui a quand même une bonne densité de Malbec sur son terroir. Blayet et Côte-de-Bourg, si vous cherchez du Malbec à Bordeaux, c'est là qu'il faut aller. C'est, toutes ces appellations-là, les côtes, là, sont face au
Médoc.
Ben, face au Médoc et face à l'eau aussi, toujours avec une bonne pente, une bonne exposition. Donc, ça donne souvent des vins qui sont sous-classés, mais qui sont assez généreux, assez riches, qui donnent beaucoup de plaisir pour le prix. On n'est pas dans la complexité, on n'est pas dans la garde. Là, on est en 2019, je pense, ouais. Avec la Croix-Bel-Air. La Croix-Bel-Air, c'est un petit domaine, c'est 9 hectares. Là. C'est minuscule, c'est confidentiel. Nous, on a acheté ça en ayant le club de vin en tête. On se disait, Côte-de-Bourg, une rive gauche, une rive droite du Bordelais, ça va être assez intéressant. En bouche.
Par contre, au niveau de la garde, il ne faut juste pas trop les sous-estimer non plus parce que vous avez... Vieux Château Champ de Mars, qui lui est en Castillon, qui s'amuse à ressortir des vieux millésimes. Puis il y a quand même des choses assez surprenantes, bien qu'on est sur des vins. Pour avoir bu du vieux Château Champ de Mars 2016 récemment, on est sur des vins qui sont pleins de fruits, assez gourmands, pas trop boisés, pas trop tanniques. Mais je pense qu'il y a une belle charge acidulée d'acide qui permet de se projeter dans le temps et de faire des belles découvertes. Là. Donc,
c'est intéressant le Malbec dans ça, parce qu'on coupe le fruit, on dirait qu'on coupe un peu le fruit du Merlot, là, qui est habituellement trop trop ou très généreux. Et là, tu as de l'amage, tu as de l'acidité, tu es tanné encore. Tu as comme vraiment une belle trame qui va te soutenir justement une viande grillée sans problème.
Tout à fait.
Et c'est mon impression, c'est que c'est le Malbec qui amène ça.
Et qui amène aussi ta structure, ta colonne. On aurait pu, souvent, on va prendre comme décision dans le modernisme à Bordeaux de pousser l'élevage en fût de chêne, mais pour aller chercher plus de complexité aromatique sans nécessairement de structure. Mais là, pas du tout. Tu mets là-dedans, il n'y a pas le bois qui ressort, mais le Malbec, c'est ce qui vient chercher.
C'est un an d'élevage.
Pas plus, c'est pas ça.
Mais tu sais, puis tu as une finale qui est longue, longue, longue. Qui
très
est
beau
sur,
vin, ça.
Qui est sur le cassis et puis le... c'est vraiment très, très intéressant. Fait que, bref, ça, je pense qu'avec une belle viande grillée, là, ça peut faire un travail assez exceptionnel. Je donnerais peut-être un petit coup de carafe.
Oui.
Léger, léger, là, un petit 10-15 minutes maximum. Il explosera pas, mais il va s'arrondir un petit peu, puisqu'il est encore un peu anguleux, malgré qu'on vient de recevoir, ça fait pas très longtemps aussi. Là. Donc, il y a peut-être un petit peu de...
Ouais, ça va faire un mois. Donc, effectivement, il est peut-être... Je pense pas qu'il est si bottle shock que ça. Là,
non,
donc, si... Mais c'est un beau produit. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont allumer là-dessus. Il y a 72 bouteilles qui sont rentrées.
Et on a ouvert la 72e.
On a ouvert la 72e. Vous êtes 71 membres. Donc, on va sûrement recommander. Pour nous, c'était une découverte. C'est quelque chose qu'on a acheté sans... on s'est allé de l'instinct là-dessus. Et je pense que notre instinct était très bon. Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à boire ça. On reste dans la thématique Merlot. Donc, aujourd'hui, on faisait un... Il y avait une thématique derrière ça. On s'en va par contre en Italie, en Toscane, avec là un 100% Merlot en ce qui concerne ça. Donc, la cuvée IGT Toscane du domaine Gianni Brunelli. Gianni Brunelli qui est basé à Montalcino, en Toscane, où on fait les Brunello, les Rosso di Montalcino également. Une petite histoire un peu romantique derrière tout ça. Donc, c'est un domaine qui a été fondé par Gianni et sa femme Laura. Leur histoire d'amour a commencé à Sienne. C'est toujours le fun des histoires romantiques italiennes. Donc, après avoir demandé une cigarette à Laura sur la Piazza del Campo à Siena, Gianni tombe amoureux d'elle. Alors, à cette époque-là, Gianni était propriétaire d'un restaurant qui est encore en opération aujourd'hui, Osteria Le Lodge à Sienne. J'y suis jamais allé, mais on m'a vanté beaucoup les mérites de cet établissement-là. Gianni décide de s'embarquer dans le vin en reprenant le domaine familial qui était basé à Montalcino. Et ça, en 1987, et le domaine existait depuis 1947. Le petit domaine, il servirait à alimenter ni plus ni moins la cave à vin du restaurant. Et rapidement, le domaine gagne en popularité, gagne auprès des critiques aussi, et devient un projet de par lui-même qui ne sert pas juste à alimenter la cave du restaurant et qui est maintenant exporté à travers le monde. Malheureusement, en 2008, Gianni est décédé. De façon assez triste et on peut pas dire, non, pas de tabagisme, mais on n'a pas plus de détails, mais on va pas plus loin que ça, mais on dit qu'il est tristement décédé. Et Laura s'accroche à la vie en continuant son travail à la vigne et au restaurant. Et aujourd'hui, les Brunello sont jouissent d'une renommée internationale. Ça rentre en très petite quantité. Pas donné, mais un bon rapport qualité-prix malgré tout pour ça. Et pour l'arrivage de la Société des Liquides, ben, puisque au niveau du prix, je ne pouvais pas présenter que ce soit le Rosso di Montalcino ou le Brunello, je me suis dit pourquoi pas intégrer ce vin-là qu'on commande depuis les 3-4 dernières années au Cavis, qui a toujours un franc succès. Là, j'ai pris un peu plus que prévu. 100% de l'arrivage s'en va dans le club sur son 100% Merlot. Faut savoir que le Merlot à Brunello, on rentre pas trop dans les détails, mais c'est un peu le cépage mouton noir qui a connu un peu une époque. On vous mettra un lien sur ça, sur le Brunello Gate. Là, mais certains producteurs de Brunello se sont amusés au début des années 2000 à mettre du Merlot dans leur vin, or qu'il n'y avait pas le droit. Ils se sont fait pincer et taper sur les doigts. Le Merlot est donc maintenant toujours aussi présent, mais vinifié par lui-même et donne des, franchement, super beaux résultats. Et là, c'est le fun d'avoir côte à côte
deux
Merlots sur une approche totalement différente. Là, on a vraiment un côté fruité, un côté plant de tomate qui ressort, un léger côté mentholé. Un côté...
ça se garde quand même.
Oregano, ouais. Ils le vendent comme étant leur vin de soif, leur vin de plaisir. On s'entend que les Brunello, c'est des vins de très, très longue garde, mais même moi, selon moi, je trouve que c'est un vin qui pourrait se bonifier à travers le temps.
Et tu mentionnais que c'était la dernière production qu'elle faisait.
Et oui, là, ça, c'est un autre chose. C'est le dernier millésime où le Merlot va être mis à la vente de par tout seul. Cette cuvée-là cesse d'exister. Elle revient avec un assemblage, cette fois-ci, Sangiovese Merlot, sous une autre cuvée, qui va être dans les prix plus rapprochés de ces Brunello, là, malheureusement. Donc, cette cuvée-là, ben, vous avez les dernières bouteilles du Québec entre vous. Donc, ça nous fait plaisir de vous partager ça. Mais honnêtement, c'est encore un super beau produit dans un esprit très italien. Là. Ouais. Tu sais, la trame italienne, on l'a. Là. Donc, le côté... La trame italienne, pour moi, ben, c'est par rapport... Lorsqu'on est en présence de cépages internationaux qu'on va retrouver plus en France, comme le Bordeaux, le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, c'est un côté astringence, une amertume, mais qui est bien travaillée, qui est bien présente, qui amène à quoi? Ben à la table, tu sais, je veux dire.
Avec c'est ça, c'est vraiment une amertume qui fait saliver.
C'est ça, exact.
Côté sapide. Qui n'est pas décevante, mais qui t'amène à, on dirait, en vouloir plus et de liquide et de chercher un accord avec la nourriture. C'est vraiment, je trouve que c'est une super bonne description, Louis. C'est vraiment ça. Les vins italiens de la Toscane, bien réussis, c'est ça.
C'est l'amertume.
C'est des vins de table qui, par l'amertume, nous amène à vouloir manger bien.
Puis au niveau encore, ben, n'importe quelle spécialité italienne avec un peu de tomate là, serait superbe, super intéressant avec ça. Là. Puis oui, ça appelle à la viande, mais pas nécessairement à la viande non plus. Là,
mais si vous avez un petit jarret de sanglier qui traîne.
Ouais, jarret de sanglier, jarret d'agneau pourrait être très très bon. Eux autres en Toscane, ils font la fameuse bistecca fiorentina qui est plus ou moins une côte de bœuf massée, huile d'olive, ail, romarin, grillé à la perfection, servi sur un ragoût de haricots tomatés. C'est vraiment le classique. Et là, on lance ça, mais je sais que vous nous écoutez parce que...
Les ventes de IGA.
Non, c'est pas, on n'a pas aussi d'influence que ça, mais j'ai reçu... dans le courant de l'été, on avait recommandé de faire une salade de fraises, basilic et fromage en crotte avec le sancerre rosé. Et non, mais Robert, tu ris, mais plusieurs personnes m'ont envoyé des textos avec une photo de leur sancerre rosé avec leur salade et ils ont bien apprécié l'accord. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. En ce qui nous concerne, on reprend sur un rythme mensuel jusqu'à Noël.
La prochaine fois, c'est à mi-octobre,
mi-octobre, genre, juste après l'Action de grâce, si ma mémoire est bonne. Quelques faits, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels s'il y a des vins que vous voulez recommander. Je sais que quelques personnes le font, on vous réfère lorsqu'il en reste. Essayez pas de nous tirer, par contre, pour aller chercher du Gianni Brunello ou du... Côte de Bourg, là, ça je vous garantis, il n'y en a plus d'autres. Et comme je vous disais en début de balado, le Camille reste quelques caisses. Donc s'il y en a qui pensent qu'il avait passé snoozé et qu'il avait pensé qu'il n'en restait plus, il reste quelques caisses si jamais ça vous intéresse. Donc je vous souhaite une bonne écoute et bonne dégustation.
Bonne journée.
Au revoir.